Bonjour Père Jacques Turc.
Bonjour.
Vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et vous êtes aussi le prêtre exorciste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et avec vous aujourd'hui, on va aborder ce sujet très important, mais très méconnu aussi, dont on peut dire parfois beaucoup de choses sans vraiment savoir de quoi on parle. Alors on va essayer de comprendre la mission que vous avez en tant qu'exorciste. D'abord, peut-être il convient d'expliquer c'est quoi ce service d'exorcisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot exorcisme ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un ministère qui est confié par l'évêque à un prêtre et que c'est un ministère qui relève immédiatement du ministère ordinaire de l'évêque. Il lui appartient en propre. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement difficile, tellement complexe, que l'Église a la prudence de ne pas diffuser partout, à tout le monde, la peur du démon, la peur du diable, comme s'il allait apparaître toutes les 3 minutes et que tout le monde allait se mettre à vouloir le faire sortir des personnes. Alors la première chose à dire, c'est que le diable, il ne rentre jamais dans personne. Il est toujours à l'extérieur, seulement il cherche à dévier la personne de sa relation avec le Seigneur.
Quand on dit cette personne est possédée par le démon, il y a le diable en elle, c'est pas vrai.
C'est une influence. C'est une influence, une inspiration du démon, mais le démon n'habite pas en elle. La seule personne qui peut habiter en nous, c'est l'Esprit Saint, tel que le Seigneur nous l'a dit. Donc l'Esprit Saint nous habite. D'ailleurs, saint Augustin utilise un mot très très beau, que j'aime beaucoup. Il dit « l'Esprit Saint aime se promener dans notre cœur ». Bon, ça c'est vrai.
Et le démon se plaît à essayer de nous dévier de ça.
Voilà, il essaye de nous dévier, de nous faire quitter le Seigneur. Et donc, il est là à l'extérieur en nous faisant voir les choses formidables que nous allons pouvoir faire si nous lui appartenons. Si on fait un acte d'allégeance à l'égard du diable, ça existe. Il y a des gens qui font des pactes avec lui. Ils sont complètement timbrés, si j'ose dire. Enfin bon, voilà.
Donc si je vous comprends bien, Père Jacques Turc, il ne s'agit pas de dire que le diable n'existe pas, mais il s'agit quand même de ne pas en être obsédé, de ne pas le voir partout, parce que finalement, si on est obsédé par le diable, c'est là qu'on le fait venir.
Souvent, on est obsédé par le diable parce qu'on se déresponsabilise soi-même. On a une liberté. Alors cette liberté doit être éclairée, elle doit être formée pour choisir le bien. Mais souvent, des personnes disent « mais c'est pas moi, c'est le démon ». Ben, vous savez, vous pouvez reprendre l'histoire d'Adam et Ève, ils se renvoient la faute les uns sur les autres. Bon. Et finalement, c'est le serpent. Mais le serpent, c'est le diable. Non, mais le diable, vous voyez bien qu'il est allé dans l'histoire d'Adam et Ève, il est à l'extérieur, il n'est pas dans le cœur ni d'Ève ni d'Adam. Et ils choisissent un bien. Le bien, c'est que je vais être comme Dieu. Bon, bah, ils choisissent entre deux biens, mais finalement, ils évacuent Dieu. Bon, donc voilà, on peut dire ça très rapidement, bien sûr, c'est plus complexe que ça. Mais voilà, donc ils cherchent à nous dévier, à nous faire sortir de notre relation au Seigneur. Et ça, c'est une influence qu'il faut guérir, qu'il faut essayer d'extirper des personnes. Alors, une des choses qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, plus peut-être qu'hier, enfin, donc, en tout cas, moi, dans mon ministère, je n'avais jamais rencontré ce ministère-là. Monseigneur Mika m'a demandé de l'assumer. Et il y a une propension aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, de mages, de cartomanciens, de voyants, que même des chrétiens vont consulter. Pourquoi ? Ça m'a beaucoup interrogé. Parce qu'ils cherchent à percer le mystère du mal. Et ça, c'est tout à fait un éloge qu'on peut faire pour ces gens qui vont les consulter. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas là, nous. On n'est pas présent pour les aider à réfléchir sur ce que c'est que le mal, sur ce que c'est que la liberté. Qu'est-ce que je vais choisir ? Et alors, on se laisse influencer.
C'est-à-dire que le mal, il intrigue quand même. On a quand même envie de creuser qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal.
Voilà, c'est tout à fait légitime.
C'est tout à fait dangereux aussi.
Non, parce qu'il faut bien essayer de voir comment il se fait qu'il y a du mal comme ça dans le monde. Alors c'est très lié au péché. C'est très lié aux mauvaises influences. Et donc, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, c'est lié au sacrement de pénitence. C'est lié aussi à l'absence de Dieu. Et à l'absence de présence peut-être de l'Église pour écouter. Moi, je suis très frappé dans le service. Donc, nous sommes une petite équipe et nous écoutons les personnes. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure quelquefois. On écoute, on les fait parler sur ce qu'ils vivent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Et là, on découvre qu'on les apaise uniquement parce qu'on les a écoutés. Et ils disent « Ah, merci de m'avoir donné tant de temps ».
Donc c'est un service d'écoute d'abord, le service de l'exorcisme.
Bien sûr, pour les aider eux-mêmes à réfléchir sur leur propre existence.
Et ça suffit parfois ?
Alors, ça suffit quand on arrive à... Alors, ça n'empêche pas de prier avec eux. On prie avec les personnes. On ne fait pas le rituel, le rite de l'exorcisme. Il y a deux exorcismes. Il y en a un mineur et un majeur. Bon, peu importe. Mais on va prier avec eux pour leur montrer qu'il faut rester attaché au Seigneur et non pas se vouer à ce que peut-être des cartomanciens ou des voyants leur ont dit, vous êtes attaqué par le démon. Et après, il nous faut une force terrible pour extirper avec un tire-bouchon de leur tête ce qu'ils ont cru de ces gens.
Ce que vous nous dites, c'est que souvent, ils viennent vous voir quand une fois qu'ils ont consulté toutes ces espèces de marchands d'illusions, si on peut dire ça comme
tout
ça.
Il
faut quand même dire qu'il y a 28% de la population française qui consulte ces gens-là.
Voilà.
C'est énorme.
Et vous
les récupérez, entre guillemets, après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne les a pas aidés. Ça a peut-être un peu vidé leur compte en banque.
Voilà, exactement. La dernière fois, c'était une femme qui me dit « j'ai dépensé 280 euros ». Ben, je lui dis, non, c'est cher. Oui, ben, plus c'est cher, plus on les croit. C'est incroyable. Alors moi, à la fin, elle me dit, et combien je vous dois ? Mais je lui dis, mais madame, ici, c'est hors de prix. Alors elle me dit, oui, vous ne pouvez pas acheter Dieu. Alors là, elle a souri, elle a compris.
Alors ça fait sourire, mais cela dit, ça nous recentre aussi, puisque en fait, il s'agit d'avoir une vie de prière. C'est ça, là, mais éviter la présence du diable, il faut avoir une vie de prière constante.
Alors, je ne dirais pas complètement cela, parce que vous avez des chrétiens qui sont tout à fait chrétiens, qui pratiquent la foi, qui prient, qui reçoivent les sacrements, qui vont à l'Eucharistie, qui reçoivent le sacrement de pénitence, et qui ont des troubles, et des troubles profonds et sévères. Et c'est là où c'est difficile de faire le lien, de faire le discernement entre... Des pathologies psychiques, des pathologies que moi dont je n'ai pas la clé, dont nous n'avons pas la clé, nous ne sommes pas psychologues. Et on a dans notre service un référent qui est psychologue à qui, quelquefois, on envoie. On dit, écoutez, cette personne-là peut vous aider, allez la voir. Bon. Donc, il est difficile. Mais il y a des chrétiens qui sont effectivement influencés par des attaques du démon. Ça, c'est vrai.
Et ça ne remet pas en cause leur foi ?
Non. Non, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Et quelquefois, ça dure des années. Ça dure des années parce que l'influence du diable est tenace.
Et quelle est la faille qui permet au diable de s'incruster dans ce cœur de cette personne qui a pourtant la foi ? Qu'est-ce qui fait que le diable trouve en cette personne-là une faille dans laquelle il peut...
Si j'avais la réponse, ça serait simple. Mais je n'ai pas la réponse. Souvent, ils profitent de situations inextricables dans la vie des personnes.
C'est-à-dire des blessures qu'elles ont
eues. Des blessures. Ou alors des cascades d'événements que les personnes ne comprennent pas et interprètent comme une influence du démon. Je vous raconte un fait que j'ai en mémoire. Voilà, ma machine a cassé. J'ai voulu aller la faire réparer. Je suis parti en voiture, j'ai eu un accident de voiture. Et quand je suis rentré, mon père était tombé de l'échelle. Mais vous voyez, le démon, il est là. Je leur dis, mais mon pauvre monsieur, il y a des successions et des cascades d'événements malheureux, ça arrive. Vous voyez ? Ça, c'est une des choses. Alors, il profite, le démon, de cette faiblesse, de cette croyance, de cette incompréhension des événements qui se produisent, et qui disent, mais comment ça se fait que ça m'arrive ? J'ai rien fait pour ça. Évidemment, les gens ne sont pas coupables. Et même des chrétiens, ça peut leur arriver. Vous voyez ? Et là, il faut, plutôt que de les centrer sur le démon en leur disant « c'est le démon qui veut ça », orientons-les vers le Christ. Et alors, on peut faire une méditation sur les tentations que Jésus a eues toute sa vie. Il a rencontré le démon lui aussi.
Oui, Jésus lui-même a mené un combat contre le mal, contre le démon.
Et c'est situé au début de l'évangile de Saint Matthieu, parce que ça veut dire que les trois tentations qu'il a eues, par le démon qui l'emmène ici ou là, il va les avoir toute sa vie. Toute la vie dans le ministère de Jésus va être une sorte d'intrusion, d'influence du démon pour lui dire « Mais écoute, t'es le fils de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que commence chacune des tentations. Si tu es le fils de Dieu. Ben oui, je suis le fils de Dieu, après tout. Mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de sauter du pinacle du temple et puis de faire en sorte que Et bien maintenant, tout le monde va me croire. Ça sera plus facile, quand même, la mission sera... Je n'aurai pas à souffrir, la passion. Donc le diable, il intervient pour qu'il ne souffre pas la passion. Et pourquoi Jésus saute pas du temple? Mais parce qu'il a voulu être homme comme chacun d'entre nous, donc il se laisse aussi tenter comme chacun d'entre nous. Et s'il saute du pinacle du temple, il se tue. Voilà, c'est un homme comme nous. Et c'est pour ça qu'il ne saute pas. Ce n'est pas parce qu'il met le Dieu à l'épreuve de lui envoyer des anges pour qu'il ne tombe pas par terre. Il sait très bien que de toute façon, s'il saute, il se tue.
Donc la foi, la vie de prière, n'empêche pas le diable de nous tenter.
Non, la meilleure preuve, avec Jésus, il part au désert.
Ni de nous faire des croche-pieds. Mais il nous empêche ou il nous aide à nous relever si jamais le diable nous fait un croche-pied.
Bien sûr, bien sûr. De nous détourner du Seigneur.
Comment on fait pour discerner, puisque c'est votre mission, mais c'est peut-être la mission qu'on a chacun de nous, entre ce qui relève du péché et puis ce qui est vraiment de l'ordre de la présence et une espèce de possession du diable?
Ça ne relève pas toujours du péché. Je vais vous raconter. Alors ici, à Lourdes, nous accueillons des gens qui viennent de partout, d'Australie, aussi bien que du Canada. Je parle là de deux jeunes que j'ai rencontrés avec leur famille. Et le premier, il avait fait des hautes études en Suisse, de commerce, etc. Il était diplômé, tout à fait bien dans sa tête. Et je le reçois, et il avait une agoraphobie. Il ne pouvait pas voir les gens. Non, c'était impossible. Il était tout le temps traumatisé par la rencontre des personnes. Alors il est venu avec son père, sa mère et son frère. Et je l'ai écouté longuement. Et vraiment, je lui demande, et qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il me dit, je lis la Bible. Alors je me dis, tiens, c'est curieux, il lit la Bible, il prie, il lit la Bible. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vit des choses extraordinaires. Et après, je dis, bon, on va aller prier ensemble, etc. Mais quand même, avant, je lui demande, mais ces troubles-là, ils viennent depuis quand? Il me dit, depuis l'âge de 3 ans. Bon, moi, je me suis dit, mais moi, à 3 ans, je n'ai aucun souvenir de ce que je faisais à 3 ans. Alors je lui dis, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'a embêté à l'âge de 3 ans? Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de psychosomatique qui laisse des traces dans ce jeune. Il me dit, je n'ai aucun souvenir. Mais simplement, il dit que c'est à l'âge de 3 ans. Bon, moi, je ne voyais pas comment le démon intervenait dans sa vie. Bon, peu importe, mais enfin, il avait cette déficience. Alors on est allé prier. On n'a pas fait l'exorcisme, mais on est allé prier. Et à la fin, son père me dit, mais vous savez, il a un très bon job. Ah bon, je lui dis. Il me dit, oui, il garde les animaux des personnes qui partent en vacances, les chats, des chiens, etc. Et il gagne beaucoup d'argent. Je dis, bon, mais il ne m'a pas raconté ça. Il m'a dit qu'il priait toute la journée ou qu'il lisait la Bible. Alors je lui dis, et tu sais que dans la Bible, le Seigneur parle quelquefois par les animaux? Oui, il me dit, l'ânesse de Balaam. Alors moi, j'étais stupéfait. Il savait ça par cœur. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément des gens qui ont des vies dissolues, qui font des péchés, etc. Mais ils ont des troubles. Bon, moi je ne sais pas comment expliquer davantage. Vous voyez. Mais ce n'était pas un trouble sévère, puisque ce garçon, il vivait une
vie... ça ne relève pas de votre ministère d'exorciste.
Ben si, parce que finalement, on aide les personnes à percevoir. Il est parti tout à fait apaisé. Ouais. On aide à percevoir que le démon, il ne va pas... Il ne va pas te chambouler ta vie comme ça. Oui. Il faut que tu la reprennes en main, etc.
Donc en fait, le rôle de l'exorciste, ça commence à une attention portée à la vie de l'autre, en fait.
À l'histoire des gens. Alors moi, je suis très très frappé de ce que, et ça c'est vrai aussi bien ici dans la chapelle des confessions, quand nous confessons, que dans l'écoute des personnes qui viennent demander un exorcisme, je suis très frappé par... les situations dramatiques que vivent les personnes. Et ces situations dramatiques, évidemment, elles ne les maîtrisent pas. Soit à cause de la société, soit à cause des brouilles familiales. C'est terrible, terrible ce que vivent les gens. Et donc, ils attribuent ça à quelqu'un d'autre. Ou bien à la personne qui leur veut du mal. Il y a quelqu'un qui me veut me jeter un sort. Mais comment est-ce que c'est possible? Moi, j'essaye de les faire réfléchir. Une personne, là, dernièrement, m'a dit, la personne qui me veut du mal, elle est au Portugal. Et elle habite ici. Mais je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Comment est-ce qu'elle aurait une puissance plus forte que celle de Dieu, qu'elle puisse à distance vous vouloir du mal et vous jeter un sort? Mais enfin, c'est vous qui le croyez. Il faut vous dégager de ça. Elle m'a dit, ah bon, vous croyez? J'ai dit, mais oui. elle est partie complètement apaisée en me disant ben, « vous avez raison ». Donc on aide les personnes à prendre conscience qu'on ne peut pas attribuer le mal à n'importe quoi, à n'importe qui.